Le service d'information de la radio CHGA vous propose l'émission d'affaires publiques L'heure juste. Nous vous offrons ce moment privilégié où nous prenons le temps d'analyser l'actualité du moment.
Bonjour, bon mercredi. Félix-Antoine Parent qui vous accompagne jusqu'à 13h. Écoutez, c'est l'avant-dernière émission de la saison de l'heure juste. Je m'en suis rendu compte en préparant l'émission. Je me suis dit, combien il en reste avant l'été? Bon, ben c'est finalement notre avant-dernière, donc dernière de la saison, mercredi prochain. Mais bon, avant d'y arriver à cette fin de saison, on a un beau menu encore une fois à l'émission aujourd'hui. On aurait peut-être voulu parler de d'autres choses, mais des sujets comme ça qui s'invitent à l'émission. Il va être question, entre autres, de la nouvelle bévue du député de Pontiac, William Amos, qui a été pris là, je dirais en flagrant délit. En tout cas, il a uriné dans une tasse à café là, selon ce que les gens rapportent, lorsqu'il était en rencontre de travail avec la Chambre des communes. Donc, dans son rôle de parlementaire, il s'est depuis retiré de son rôle de parlementaire et silence radio, pas d'entrevue. Il a décommandé les entrevues qu'il avait avec nous. Il dit vouloir aller chercher l'aide dont il a besoin. Quelle aide? On n'est pas très explicite à ce niveau-là, à savoir de quelle aide il a besoin. Donc, on va jaser en deuxième portion d'émission avec des professeurs d'université pour parler de l'image que ça envoie et aussi de comment il peut se défaire de cette image-là et comment ça peut impacter là, son rôle de député. Mais d'entrée de jeu, on va revenir sur l'entente qui a été signée entre Québec et les communautés algonquines dans la gestion du cheptel d'Orignal dans la réserve faunique La Vérendrye. Beaucoup de gens qui avaient d'entendre de ces nouvelles-là. On a Marc Plourde dans un instant. Il est président de la Fédération des pourvoiries du Québec. Mais d'entrée de jeu, on a une personne qui était au cœur des négociations tout au long de ce processus. Il s'agit de Lucien Wabanonik, négociateur donc pour la chasse à l'orignal là, dans la réserve faunique La Vérendrye pour les communautés algonquines. Monsieur Wabanonik, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, merci premièrement d'avoir accepté notre invitation.
Oui, c'est un plaisir.
Donc, c'était quelque chose qui était attendu, vous le savez. On vous a même, on est rendu des habitués là à la radio CHGA avec vous. On vous appelait pas quotidiennement, mais pratiquement parce qu'on voulait avoir vraiment les nouveautés. Est-ce que vous pouvez nous dresser les grandes lignes de l'entente signée entre Québec et les communautés pour qu'on sache ce qu'il y en est, pour que tout le monde soit au courant?
Oui, bien sûr. C'est une entente de 4 ans avec quelques éléments importants qui vont toucher l'aspect, bien sûr, de la chasse pour les 2 prochaines années. Donc, il y a un moratoire de 2 ans. Le moratoire va nous permettre de faire une étude le plus complet possible, à savoir pourquoi il y a une diminution importante dans plusieurs zones dans la réserve faunique de la Vérendrye. Donc, il va y avoir un groupe de travail conjoint avec le Québec et nos communautés pour faire cette étude-là, cet examen-là, parce que là, ce qui va en sortir va affecter certaines décisions qui doivent être prises conjointement avec les communautés et le Québec, bien sûr. Notamment sur la question du plan de gestion, parce qu'il va y avoir un nouveau plan de gestion là, pour justement pour tenir compte de ces aspects-là. Là.
Est-ce que c'est l'entente? Est-ce que vous auriez aimé qu'elle ait encore plus loin, cette entente-là, ou vous êtes satisfait dans son entièreté?
Ben, écoutez, nous, on aurait aimé aller un peu plus loin. Mais quand même, on est satisfait de la conclusion de cette entente-là. On, de notre côté, on va faire tout ce qui est possible de notre côté pour justement la respecter, la mettre en œuvre. Puis ça, il y a une question d'éducation, même à l'intérieur de nos communautés. On doit faire de notre part et la question de sensibilisation en est une. Mais c'est certain que les gens qui ne comprennent pas peuvent avoir des questionnements, des préoccupations. Mais à tout le moins, je pense que c'est positif pour tous les partis.
Oui, non, effectivement. Le territoire visé, c'est parce que là, de ma compréhension, la majorité des pourvoiries qui font affaire dans ce secteur-là ne sont pas touchées, à l'exception de peut-être une ou deux?
Bien, je ne sais pas en termes d'impact qu'il peut avoir pour le moment, parce que là, on va rentrer dans les détails, là, mais c'est certain qu'il va y avoir des impacts. Quelques-uns un peu plus, peut-être d'autres un peu moins, mais à tout le moins, on va avoir besoin de leur collaboration parce qu'on ne fera pas tout seul. Ça va être en collaboration avec plusieurs personnes. Là.
OK. Puis là, dans deux ans, lorsque les études seront faites, puis si on réalise, bon, ben finalement, le cheptel est en santé ou au contraire, le cheptel a besoin d'un coup de pouce, ben là, ça veut dire que le moratoire pourrait se perdurer ou on pourrait mettre des mesures supplémentaires. C'est pas la fin, loin de ça. L'étude va peut-être permettre d'adapter les mesures en place pour justement assurer la survie du cheptel.
Absolument. Puis dépendamment de comment ça va ressortir, il va y avoir des ajustements. Mais de là à dire qu'il va y avoir un autre moratoire, on n'est pas là. Okay. Mais probablement qu'il va y avoir des ajustements dans certaines zones. Mais ça encore là, la participation des communautés va être importante et c'est certain qu'on demande la collaboration de tous là.
Le moratoire, juste pour bien comprendre, il s'adresse seulement à la chasse sportive ou c'est à la chasse de subsistance?
La chasse sportive, principalement, parce que, comme vous le savez, les droits constitutionnels des Premières Nations, c'est très dur à jouer dans ça. Le gouvernement le sait très bien aussi. Mais à tout le moins, quand je peux vous assurer là, que plusieurs de nos chasseurs sont... très conscients de la situation et eux-mêmes, par leur décision, n'iront pas chasser cette année. Là. Il y en a plusieurs qui parlent justement de leur décision. Là.
OK. Quand est-ce qu'on pourrait commencer les études là, pour le cheptel, les études scientifiques, puis comment ça va se procéder, tout ça?
Ben, c'est une question de jours, peut-être de semaines, mais... Le gouvernement, le Québec doit le paraffer au niveau du cabinet et à partir de là, l'étape de planification de rencontre doit se faire quand même très rapidement.
OK. Et ce qu'on disait, c'est que c'est pas seulement le gouvernement et c'est pas seulement les communautés qui vont faire l'étude, ça va être fait conjointement et par un parti neutre aussi, là.
Ben absolument. Une troisième partie qui pourrait, si jamais on a une interprétation différente de l'un de part et d'autre, la troisième partie pourrait nous aider à se rapprocher puis conclure que oui, vous avez raison ou non, vous n'avez pas raison. Mais ils vont nous assister, effectivement.
OK. On sait que Lac-Barrière était un peu moins favorable. Ils ont quand même signé l'entente, là, mais il était un peu moins favorable. Puis on sait que c'est pas mal la communauté qui, en tout cas, c'est une des communautés qui est vraiment là sur le territoire visé. Comment on explique peut-être là, qu'il était un peu moins chaud à l'idée de signer?
Écoutez, c'est un nouveau conseil qui venait d'être élu, qui venait d'arriver. Donc, on comprend la situation. Là, quand t'es nouveau, tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a une certaine hésitation, une incompréhension de départ. Donc, il fallait que faire comprendre le tout. Et la communauté, quand même, et son conseil ont décidé d'aller de l'avant. Là. Ça, c'est une bonne nouvelle.
OK. Écoutez, je ne pourrais pas parler avec vous aujourd'hui sans revenir sur les événements de cette semaine là du côté de Kamloops dans l'Ouest canadien. Je ne sais pas si vous voulez en parler, mais c'est les restes de 215 enfants autochtones qui ont été dans des pensionnats, qui ont été retrouvés. Une histoire horrible. Comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de ça?
Écoutez, moi, je suis un survivant du pensionnat de Saint-Marc-de-Figuré, là, de près d'Amos. Là, je peux vous dire qu'il s'est passé des choses-là. C'est pas évident à parler, moi, vous dire, pour être honnête avec vous, là, mais j'ai pas été surpris de ça, qu'il y avait des choses qui se passaient, parce que moi, étant jeune, j'ai déjà vu des sœurs et des prêtres là, amener... une petite boîte, là, et puis enterrer ça quelque part, mais je m'en souvenais plus. J'avais 5 ou 6 ans à l'âge, là, à l'époque, là. Donc, c'est des événements, des souvenirs qui sont très difficiles à vivre, là.
Il y a le ministre Lafrenière qui disait, avec qui vous avez travaillé beaucoup dans les négociations, qui disait qu'il était prêt, justement, à faire la part pour, justement, peut-être fouiller certains sites, exhumer certains corps. Vous êtes d'accord avec cette approche-là?
Ben écoutez, il va falloir que ça se fasse en tout respect puis en collaboration avec les communautés. Quand même, les familles voudront récupérer ces corps-là. Si ça se trouve au Québec, ben il va y avoir des étapes importantes dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais une des premières choses qu'il faudra avoir parmi en termes d'information, c'est les données qu'avaient ces institutions-là, des pensionnats, là. Puis que ce soit transmis aux communautés pour justement permettre aux familles ou de faire les rapprochements, puis à partir de là, ben, faire les actions. Oui.
On sent que c'est vraiment pas facile, puis c'était pas convenu ensemble, là, donc je vais pas aller plus loin dans cet angle-là, parce que bon, c'est quelque chose qui vous touche personnellement, mais assurément que c'est horrible, et on espère que la lumière va être faite là, dans cette histoire-là, mais ça rappelle malheureusement un pan de notre histoire qui est pas si éloignée que ça, hein. C'est tout de même dans l'histoire très très récente du Québec. Eh bien, Monsieur Wabanoné, qu'est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose d'autre avant qu'on se laisse?
Ben écoutez, vous savez, nous, les Premières Nations, les Anishinaabeg, comme tous les autres peuples au pays, là, on a été souvent très incompris. Notre culture est vivante, notre langue est vivante, on est un peuple, une société distincte qui est vivante puis qui a toujours été là. On est un peuple millénaire dans ce continent. Mais je pense qu'il faut apprendre à vivre ensemble puis vraiment tourner. Prendre cette occasion-là comme une opportunité puis vraiment voir les choses de façon plus plus humaine et plus respectueuse là, des uns et des autres.
Sentez-vous qu'on est on est rendu là en tant que société? On est rendu prêt à faire ce pont-là?
Bien, écoutez, moi, mon impression, c'est qu'on n'est pas loin de là. On n'est peut-être pas rendu là encore, mais à tout le moins, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui doivent être faites encore. On a encore un bout de chemin, là, vraiment, là, pour essayer de faire avancer l'ensemble de la société, parce que nous aussi, on fait partie de la société maintenant, donc il faut vraiment qu'on puisse avoir une meilleure compréhension des uns et des autres, puis il faut passer de la barrière de l'ignorance, puis vraiment se parler à cœur ouvert, on va dire.
Ouais. Ben, c'est une des raisons aussi pourquoi on veut vous avoir, puis nous, à la radio aussi, on essaie de faire des liens, justement, de rapprocher les liens entre la radio et les communautés, parce que les gens, bon, ils nous écoutent beaucoup et on fait partie de ça pour véhiculer des messages, donc c'est important pour nous de le faire, mais je trouve ça intéressant aussi que vous preniez la balle au bon, hein, quand vous a communiqué. Là, toutes les fois qu'on fait appel à vous, vous êtes toujours là pour répondre et nous expliquer, prendre le temps de le faire, puis c'est très apprécié.
Non, mais j'apprécie votre ouverture, puis je vais vous souhaiter là-dessus une belle journée. Au revoir.
Merci beaucoup, M. Wabanoné. Au revoir. Donc, Lucien Wabanonik, bon, je le disais d'entrée de jeu, il était, lui, au sein du comité de négociation avec le gouvernement du Québec, qui en est arrivé à une entente, signée entente de 4 ans, moratoire de 2 ans. Les détails, M. Wabanonik le disait, seront connus un peu plus tard. Faut que Québec parafe l'entente, signe l'entente officiellement avant qu'on en dévoile tous les détails. Donc, restez des nôtres. Dans un instant, on poursuit la discussion avec Marc Plourde. Il est, M. Plourde, le président de la Fédération des pourvoiries du Québec pour parler de cette entente avec Québec, mais aussi des négociations avec Québec et les pourvoiries, parce qu'il y a des compensations financières qu'on tente d'aller chercher du côté des pourvoiries pour les pertes encourues l'an dernier. Donc, on en jase dans un instant. Restez des nôtres.